Chapitre 39. Dès qu'il se fut téléporté à Ilium, le professeur Thomas Hockenberry, PhD, s'était empressé de trouver une venelle pour y vomir tout son soûl. Il y était parvenu sans trop de difficultés, même compte tenu de son état, car l'ex-scoliaste avait passé une dizaine d'années à Troyes et dans ses environs, et il avait débarqué dans un endroit qui lui était familier, une ruelle proche des appartements d'Hélène et de Paris. Heureusement, on était en pleine nuit, les échoppes et les tavernes du quartier étaient fermées et aucune sentinelle n'avait remarqué son arrivée inopinée. Une fois à pied d'œuvre, il avait vomi tout ce qu'il savait, puis s'était mis à la recherche d'une autre venelle, encore plus sombre et moins fréquentée. Heureusement, on en trouvait plein près du palais de Feu Paris, dont Priam avait fait son palais temporaire sans toutefois en chasser Hélène, et Hockenberry avait jeté son dévolu sur un étroit et obscur passage, où il s'était allongé sur la paille, s'enveloppant dans la couverture provenant de sa cabine à bord de la Reine Mab, et s'était endormi. Il se réveilla peu après l'aube, souffrant de raideur et d'une gueule de bois carabinée, et prit aussitôt conscience des bruits qui montaient de la place toute proche et du caractère profondément incongru de sa tenue. Il avait rapporté de la Reine Mab une sorte de survêtement gris et des sandales à semelles velcro, l'idée que se faisaient les Moravecs d'un accoutrement masculin du XXIe siècle. L'ensemble jurait quelque peu avec les robes, les jambières, les cothurnes, les tuniques, les toges, les capes, les fourrures, les armures en bronze et les pagnes tressées en usage à Ilium. Lorsqu'il fit son entrée sur la place, époustant la crasse de la nuit et conscient de la différence entre une accélération de 1,28 G et la bonne vieille pesanteur terrestre qui lui donnait l'impression d'être un jeune homme, Hockenberry fut surpris de constater qu'elle était presque déserte. En temps normal, c'était l'heure d'affluence au marché, mais on ne voyait presque pas de chalands devant les échoppes, ni de consommateurs à la terrasse des tavernes, et les seules personnes qu'on apercevait à l'autre bout de la place, devant le palais de Priam, anciennement de Paris, étaient les sentinelles en faction devant les portes. Décidant qu'une tenue correcte était plus urgente qu'un petit déjeuner, il se dirigea vers l'échoppe d'un vieux brigand borgne et édenté, coiffé d'un turban rouge, qui officiait à l'ombre d'une loggia. Son étal était le plus grand et le plus varié. Les fringues de seconde main s'y mêlaient aux habits prélevés sur les cadavres, et il marchandait avec autant d'âpreté qu'un dragon rechignant à se séparer de son or. Comme Hockenberry avait les poches vides, il fut contraint de se défaire de son survêtement et de sa couverture, mais ces deux articles étaient tellement exotiques, il raconta au bonhomme qu'il arrivait tout droit de Perse, qu'il put les troquer contre une toge, des cothurnes, une cape en laine rouge ayant appartenu à quelque officier malchanceux, une tunique avec pagne assortie et des sous-vêtements. Il exigea de choisir lui-même ces derniers, veillant à ce qu'ils soient vierges de puce à défaut d'être propres. Il eut également droit à une épée quelque peu usagée, mais encore affûtée, et à deux coutelas, le premier passé à son ceinturon, et le second glissé dans une poche cousue à cet effet dans la doublure de la cape. Plus une poignée de pièces de monnaie. En voyant le large sourire édenté de son vendeur, Hockenberry comprit qu'il s'était sans doute fait truander dans les grandes largeurs. Le vieux maquignon tirerait un bon prix de son survêtement, à moins qu'il ne l'échange contre un cheval ou un bouclier. Ah, et puis zut! Il aurait pu l'interroger, lui ou ses confrères à moitié endormis, sur la situation à Ilium. Pourquoi cette place déserte? Où étaient passés les soldats et leurs familles? Comment se faisait-il que la ville soit si calme? Mais il ne tarderait pas à être renseigné. Lorsqu'il se changea derrière la carriole de son vendeur, celui-ci et deux de ses confrères se montrèrent fort intéressés par son médaillon têtu, un marchand de fruits corpulent allant jusqu'à lui en offrir 200 mesures d'or et 300 pièces thraces. Mais Hockenberry resta inflexible, se félicitant d'avoir pris possession de ses armes avant de se déshabiller. Il se paya un petit déjeuner consistant en une tranche de pain frais, du poisson séché, une part de fromage et une sorte de tisane peu susceptible de lui faire oublier le goût du café. Puis il regagna l'abri des ombres et considéra le palais d'Hélène de l'autre côté de la place. Il pouvait se têcu dans sa chambre. Il l'avait déjà fait. Et si elle s'y trouve, qu'est-ce que je fais? Un coup d'épée et puis s'en va, l'assassin invisible? Mais comment être sûr que les sentinelles ne le verraient pas? Pour la 10 000e fois en 9 mois, Hockenberry regretta amèrement la perte de son bracelet de morphine, l'outil de base dont les dieux équipaient tous leurs scoliastes. Hockenberry, Knighton-Hessler et tous leurs collègues hélas disparus, et qui permettaient à ceux-ci de manipuler la réalité quantique, déplaçant la personne de leur choix, pour endosser non seulement son apparence, mais aussi son essence au niveau quantique. C'était ainsi que le corpulent Knighton Elser avait pu se morpher en un frêle adolescent sans violer la règle de conservation de la masse, qu'Hockenberry s'était jadis fait expliquer par un scoliaste à l'esprit scientifique. Bon, Hockenberry n'avait plus son bracelet de morphine. Il avait dû l'abandonner à Olympos, ainsi que son taser, son micro-directionnel et son impacto armure. Mais il conservait encore le médaillon TQ. Il toucha le disque doré posé contre son torse et hésita. Que ferait-il une fois face à Hélène de Troyes? Il n'en avait aucune idée. Il n'avait jamais tué personne, et il était question ici de la plus belle femme qu'il ait jamais aimée, de la plus belle femme qu'il ait jamais vue, presque aussi belle qu'Aphrodite. Aussi hésitait-il. Un bruit monta des portes C. Il se dirigea vers elle, mâchonnant son quignon de pain et tenant à la main sa gourde de vin, et réfléchit à la situation qui prévalait à Helium. « J'ai été absent un peu plus de 2 semaines. La nuit où je suis parti, la nuit où Hélène a tenté de me tuer, les Achéens semblaient sur le point de conquérir la ville. Ou en tout cas, Troie et les quelques dieux qui la défendaient, Apollon, Arès, Aphrodite et d'autres divinités mineures, ne semblaient pas de taille à résister à l'armée d'Agamemnon et à ses alliés divins, Athénée, Érée, Poséidon et les autres. Hockenberry avait suffisamment observé cette guerre pour savoir que rien n'y était acquis. Certes, ce qu'il avait suivi était la version d'Homère. Les événements auxquels il avait assisté dans cette réalité, sur cette terre, dans cette Troie et ses environs, se conformait avec plus ou moins de précision à l'épopée homérique. Mais vu qu'ils en divergeaient désormais de façon spectaculaire, tout ça grâce à ce mêle-tout de Thomas Hockenberry, inutile de le lui rappeler, tout était désormais possible. Il courut donc se fondre dans la foule qui se dirigeait, l'aube venue, vers l'entrée principale de la cité. Il trouva Hélène sur les remparts au-dessus des portes C, en compagnie de la famille royale et d'autres dignitaires, sur la terrasse même où, 10 ans plus tôt, elle avait identifié les divers héros achéens pour le bénéfice des Troyens. Ce jour-là, elle était en compagnie de Priam, d'Hécube, de Paris, d'Hector et de quelques autres. Hécube et Paris n'étaient plus, un sort que partageaient des milliers d'autres, mais Hélène se tenait toujours à la droite de Priam, à côté d'Andromaque. 10 ans plus tard, le vieux roi était toujours vivant, mais aujourd'hui il devait s'asseoir dans le palanquin royal qu'il ne quittait pratiquement plus. En lieu et place du souverain plein d'autorité et de maturité qu'Hockenberry avait découvert une décennie auparavant, il n'y avait plus qu'une caricature momifiée du puissant Priam. Sauf que la momie semblait plutôt contente.
« Jusqu'à ce jour, j'avais pitié de moi !»
s'écria Priam. Il s'adressait aux dignitaires qui l'entouraient, ainsi qu'aux quelques centaines de gardes royaux sur les marches et dans la plaine en contrebas. Il n'y avait pas une armée en vue. La colline Bathier, comme les environs immédiats d'Ilium, était vierge de toute présence militaire. Mais en suivant le regard d'Hélène, Hockenberry aperçut une vaste foule à 3 kilomètres de là, près de l'endroit où étaient échouées les nefs noires des Grecs. Apparemment, l'armée troyenne, franchissant sans encombre Douve et Chaustrape, avait encerclé les Achéens, lesquels avaient abandonné leur chapelet de camp pour se retrancher à l'intérieur d'un demi-cercle de quelques centaines de mètres de diamètre. Acculés à la mer, ils attendaient de subir l'ultime assaut des Troyens.
« J'avais pitié de moi, » répéta Priam d'une voix qui s'affermissait, « et je vous implorais tous de partager ce sentiment. Depuis que ma reine a péri aux mains des dieux, je ne suis qu'un vieil homme brisé, terrassé, condamné, un vieillard, une épave décrépite, persuadé que Zeus m'a réservé le pire des sorts que l'on puisse imaginer. Ayant vu nombre de mes fils périr au fil de ces 10 dernières années, j'étais persuadé qu'Hector les rejoindrait bientôt dans les cavernes de l'Hadès, avant même que l'esprit de son père y soit envoyé. J'étais prêt à voir mes filles enlevées, mon trésor dispersé, le Palladion arraché au temple d'Athénée, nos bébés impuissants précipités du haut de nos remparts pour marquer de leur sang la fin de cette guerre barbare. Il y a un mois de cela, ma famille et mes amis, guerriers et femmes, je m'attendais à voir les épouses de mes fils succomber aux mains sanglantes des Argiens. Hélène, massacrée par le meurtrier Ménélas, ma fille Cassandre violentée, si bien que j'étais déjà résigné, non, impatient à accueillir ces chiens devant ma porte, à les encourager à me dévorer tout cru, après que la lance d'Achille ou d'Agamemnon, du rusé Odysseus, ou de l'impitoyable Ajax, du terrible Ménélas ou du puissant Diomède m'auraient enfin terrassé. Oui, ils m'auraient embroché de leurs lances, ils auraient arraché toute vie à mes vieux os. Ils auraient servi mes tripes à mes propres chiens. Oui, ces chiens si fidèles qui gardaient mon logis et la porte de ma chambre. Et ces serviteurs, pris de rage, auraient lapé le sang de leur maître, dévoré le cœur de leur maître, et ce, sous les yeux de tous. Oui, ainsi me lamentais-je il y a 10 mois, il y a 2 semaines. Mais... voyez donc le nouveau monde qui s'offre à nous ce matin, mes bien-aimés Troyens. Zeus a emporté les dieux avec lui, ceux qui voulaient notre perte comme ceux qui souhaitaient notre salut. Le père des dieux a frappé de sa foudre sa bien-aimée Rhée. Le puissant Zeus a incendié les nefs noires des Argiens et ordonné à tous les immortels de regagner Olympos pour y expier leur désobéissance. À présent, que les dieux ont cessé d'emplir nos nuits et nos jours de bruit et de fureur, mon fils Hector conduit nos troupes de victoire en victoire. Privés du soutien d'Achille, ces cochons d'Achéens sont retranchés dans les carcasses calcinées de leurs nefs noires, leur campement anéanti au sud et incendié au nord. Et à l'ouest, voici que se dresse devant eux Hector et nos vaillants guerriers d'Ilium, dont Énée le Dardamien et Acamas et Archéloque, les derniers fils d'Anténor. Au sud, la retraite leur est coupée par les splendides fils de Lycaon et par nos fidèles alliés de Zélée qui se trouvent au pied du mont Ida dont Zeus fait parfois son trône. Au nord, les Grecs sont bloqués par Adraste et Amphios à l'étincelante armure qui mène les soldats d'Apèse et d'Adrasté, caparaçonnés de l'or et du bronze que leur ont laissé les Achéens tomber dans leur fuite paniquée. Et voici que nos chers Hippotous et Pylée, qui ont survécu à 10 ans de carnage et se préparaient à périr à nos côtés, à côté de leurs frères et amis Troyens, et qui mènent ce jour leur valeureux Pélage et avec leur capitaine d'Abydos et d'Arisbée. Apparemment promis à une défaite et à un trépas ignoble, nos fils et nos alliés sont sur le point de planter la tête d'Agamemnon sur une lance, et nos alliés Thraces, Troyens, Pélases, Cicones, Péoniens, Palphagoniens et Alisones, qui voient enfin approcher le terme de cette interminable guerre, ramasseront bientôt l'or des Argiens vaincus, se partageront bientôt les armures d'Agamemnon et de ses hommes. Ce jour, incapables de fuir à bord de leur nef noire, les rois grecs qui sont venus ici pour piller et massacrer subiront le sort qu'ils nous avaient réservé. Ce jour, si telle est la volonté des dieux, et Zeus l'a déjà rendu manifeste, mes amis et ma famille, et tous nos ennemis, assisteront à notre victoire finale. Préparons-nous à voir la fin de cette guerre. Préparons-nous, avant que s'achève ce jour qui commence, à accueillir en vainqueur Hector et Déiphobe, à célébrer leur victoire pendant toute une semaine, non, pendant tout un mois, afin que Priam, votre souverain et fidèle serviteur, puisse mourir heureux.
Ainsi parla Priam, roi d'Ilium, père d'Hector, et Auchenberry n'en crut pas ses oreilles. Hélène s'éloigna d'Andromaque et des autres Troyennes, empruntant l'escalier qui descendait vers la rue, accompagnée de la seule Hypsipyle, la robuste esclave prêtée par Andromaque. Auchenberry se planqua derrière un garde royal large d'épaules, jusqu'à ce qu'Hélène soit hors de vue, puis la suivit. Les deux femmes s'engagèrent dans une étroite ruelle longeant le mur ouest, puis dans une venelle encore plus étroite et orientée à l'est. Auchenberry savait où elle se rendait. Quelques mois plus tôt, vexé d'avoir été largué par Hélène, il l'avait suivie alors qu'elle se trouvait avec Andromaque, découvrant ainsi leur petit secret. La femme d'Hector se rendait régulièrement dans une nurserie clandestine, où elle avait installé le petit Astyanax, Kipsipil et une autre nourrice se relayaient pour garder. Hector lui-même ignorait que son fils était vivant, que son meurtre aux mains d'Aphrodite et d'Athénée n'était qu'une ruse imaginée par les Troyennes, lesquelles s'étaient jurées de mettre un terme à la guerre opposant Argiens et Troyens et avaient poussé Hector à affronter les dieux. Une ruse qui avait marché à merveille, se dit Hockenberry, qui patienta à l'entrée de la Venelle afin de ne pas être repéré. Sauf que la guerre contre les dieux avait pris fin et que celle de Troie semblait sur le point d'en faire autant. Il ne souhaitait pas que les deux femmes arrivent à destination. La nurserie clandestine était gardée par des soldats siliciens. Il se pencha pour ramasser un gros caillou ovale d'une taille parfaitement adéquate et le serra dans sa main. « Vais-je vraiment tuer Hélène ?» Il n'avait pas de réponse à cette question. Pas encore. Hélène et Hypsipyle se trouvaient devant la porte de la courette par laquelle on accédait à la nurserie, lorsqu'Hockenberry, qui les avait rejointes à pas de loup, tapa doucement sur l'épaule de l'esclave lesbienne. Hypsipyle se retourna vivement. Hockenberry lui décocha un crochet à la mâchoire. Bien qu'ayant pris la précaution de se lester le poing, il faillit se briser les doigts sur ses os. Mais Hypsipyle tomba comme une masse, et son crâne heurta le pavé avec un bruit sourd. Elle resta inanimée sur le sol, la mâchoire apparemment brisée.
« Génial !» songea Hockenberry. « 10 ans à jouer les observateurs, et tu te joins enfin aux hostilités !» En frappant une femme.
Hélène recula d'un pas, et la petite dague qu'elle dissimulait dans les replis de sa manche descendait déjà vers sa main. Hockenberry s'empressa de la gripper par le poignet, de lui tordre le bras derrière le dos, de la plaquer contre la porte en bois brut, et, réprimant une grimace tant sa main lui faisait mal, il dégaina son poignard et lui en appliqua la pointe sur la gorge. Elle lâcha sa dague.
« Hockenberry !»
dit-elle. Bien qu'elle ait incliné la tête en arrière, il vit que son poignard lui avait percé la peau. Il hésita. Son bras droit tressaillait déjà. S'il voulait agir, il devait agir vite, avant que cette salope ait une chance de l'embobiner. Elle l'avait trahi. Elle l'avait poignardé en plein cœur. Mais c'était l'amante la plus stupéfiante qu'il ait jamais connue.
« Tu es un dieu !»
murmura Hélène. Elle avait les yeux écarquillés, mais on n'y lisait aucune crainte.
« Je ne suis pas un dieu. Je suis un chat. Tu m'as pris une de mes vies. On m'en avait déjà accordé une de rabe. Il m'en reste donc 7. »
En dépit du couteau pointé sur sa gorge, elle partit d'un petit rire.
« Les chats ont donc 9 vies. Quelle idée séduisante. Tu as toujours été habile avec les mots. Pour un étranger.
Tue-la ou épargne-la, mais décide-toi vite. Ceci est grotesque,
se dit Hockenberry. Il retira son poignard, mais avant qu'Hélène de Troie ait pu parler ou agir, il lui empoigna les cheveux à pleine main, appuya la lame contre son flanc et l'entraîna dans la Venelle, loin de l'appartement d'Andromaque. Ils étaient revenus à leur point de départ, dans la tour désaffectée donnant sur les portes scellées, où ils l'avaient découverte en compagnie de Ménélas, où elle l'avait poignardé après qu'il eût transporté son époux dans le campement d'Agamemnon. Hockenberry obligea Hélène à gravir l'étroit escalier en colimaçon jusqu'à son dernier niveau, un niveau désormais à ciel ouvert du fait du bombardement divin survenu plusieurs mois auparavant. Il lui ordonna de se placer en un point où on ne pourrait pas la voir depuis la rue.
« Déshabille-toi, » dit-il.
Hélène chassa une mèche de cheveux de son front.
« As-tu l'intention de me violer ?» avant de me jeter dans le vide, Hockenberry ?
Déshabille-toi.
Il garda l'arme au poing pendant qu'Hélène se défaisait de ses atours soyeux, une couche après l'autre. La température était plus clémente que le jour où il l'avait quittée, ce jour d'hiver où elle l'avait poignardée. Mais il soufflait une brise assez fraîche pour lui durcir les mamelons et parer de chair de poule ses bras et son ventre blanc. Chaque fois qu'elle laissait choir l'un de ses effets, il lui ordonnait de le pousser dans sa direction. Sans la quitter des yeux, il palpa robe et jupon. Elle n'avait pas d'autre dague. Elle resta plantée dans la lumière matinale, les jambes légèrement écartées, sans prendre la peine de dissimuler ni ses seins ni son pubis, gardant les bras ballants dans une posture des plus naturelles. Elle se tenait la tête droite, et on distinguait un filet de sang sous son menton. Dans ses yeux se lisait un mélange de défiance sereine et de vague curiosité, comme si elle se demandait ce qui allait lui arriver. En dépit de la rage qui l'habitait, Hockenberry comprit comment elle avait pu pousser des centaines de milliers d'hommes à s'entretuer. Et il eut droit à une autre révélation. Même habité par la rage, une rage meurtrière, il pouvait éprouver du désir pour une femme. Après avoir passé 17 jours à 1,28 G d'accélération, il se sentait plein de force ici sur Terre. Il se sentait puissant et musclé. Il aurait été capable de soulever cette femme d'une seule main et de l'emporter dans un coin sombre pour lui faire tout ce qu'il voulait aussi longtemps qu'il le voudrait. Oakenberry rendit ses vêtements à Hélène. « Rhabille-toi. » Elle les ramassa en le gratifiant d'un regard méfiant. Des remparts et des portes C montèrent des cris et des vivas, ponctués par le vacarme caractéristique des lances de bois frappant les boucliers de cuir. Priam venait d'achever son discours. « Raconte-moi ce qui s'est passé durant les 17 jours où j'ai été absent » ordonna-t-il d'un ton bourru.
« C'est pour cela que tu es revenu, Oakenberry, pour me demander de te faire un rapport ?»
Elle lassait le corsage qui protégeait ses seins blancs. Il lui désigna un moellon sur le sol, et lorsqu'elle y eut pris place, il s'en trouva un autre à 2 mètres de distance. Même armé d'un poignard, il ne tenait pas à l'approcher de trop près.
« Raconte-moi ce qui s'est passé durant mon absence, » insista-t-il.
« Tu ne veux pas que je te dise pourquoi je t'ai poignardé ?»«
Je le sais déjà, » dit-il d'une voix lasse. « Tu m'as amené à Técu, Ménélas, hors de la ville, mais tu as décidé de ne pas le suivre. Si j'étais mort, et si les Achéens avaient conquis la cité, ce dont tu ne doutais point, tu aurais dit à Ménélas que je n'avais pas voulu que tu le rejoignes, ou quelque chose comme ça. Mais il t'aurait tué de toute façon, Hélène. Un homme, même quelqu'un comme Ménélas, qui n'est pas particulièrement futé, peut pardonner une trahison. » Pas deux.
Oui, il m'aurait tué. Mais si je t'ai frappé, Oakenberry, c'est afin de n'avoir plus le choix, afin d'être obligé de rester à Ilium.
Pourquoi ?
Aux yeux de l'ex-scoliaste, cette explication n'avait aucun sens. En plus de cela, il avait la migraine.
Quand Ménélas m'a capturé ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais heureuse de le suivre. J'aurais même été heureuse qu'il me tue s'il avait choisi de le faire. Les années que j'avais passées ici, moi, la traînée, la fausse épouse de Paris, la raison de toutes ces morts, m'avaient rendue mauvaise à tous les sens du terme. J'étais un être vil, fragile, vide, vulgaire.
« Tu es bien des choses, Hélène de Troie, » aurait-il voulu dire, « mais vulgaire. » « Jamais. »
« Mais après la mort de Paris, » reprit-elle, « je me retrouvais sans époux, sans maître. Et ce, pour la première fois depuis que j'étais jeune fille. Ce jour-là, lorsque j'ai été ravie de revoir Ménélas, j'ai compris que ma réaction était celle d'une esclave qui retrouvait avec joie ses fers et ses chaînes. Quand tu nous as rejoints dans cette tour une fois la nuit venue, tout ce que je voulais, c'était rester à Ilium, mais y rester seule, ne plus être la femme de Paris, ni celle de Ménélas, mais être Hélène, tout simplement.
« Ça n'explique pas ce coup de poignard, » déclara Oakenberry. « Une fois que j'avais transporté Ménélas dans le camp de son frère, il te suffisait de me dire que tu préférais ne pas le suivre. Ou alors tu aurais pu me demander de te transporter ailleurs. Je t'aurais obéi. »
« C'est pour cette raison que j'ai tenté de te tuer, »
dit Hélène à voix basse. Oakenberry la fixa en plissant le front.
« Ce jour-là, j'ai décidé que mon destin ne serait plus lié à un homme, mais à la cité, à Ilium. Et je savais que tant que tu serais en vie, j'aurais le pouvoir d'utiliser ta magie pour m'emmener ailleurs, en lieu sûr, alors même qu'Agamemnon et Ménélas pénétraient dans la ville pour la détruire par le feu. »
Oakenberry réfléchit durant une longue minute. Cette explication était insensée. Jamais il ne pourrait la comprendre. Il décida de ne plus y penser.
« Raconte-moi ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, » demanda-t-il pour la 3e fois.
« Les jours qui ont suivi celui où je t'ai laissé pour mort ont été des jours sombres pour la cité, »
dit Hélène.
Agamemnon a failli l'emporter cette nuit même. Hector s'était enfermé dans ses appartements avant même que les Amazones ne chevauchent vers la mort. Une fois que le trou se fut refermé et que tous eurent compris qu'il ne se rouvrirait plus, il est resté enfermé chez lui sans parler à quiconque des sentiments qui l'agitaient, même pas à Andromaque. Celle-ci a envisagé de lui avouer que leur fils était toujours en vie, mais elle s'en est abstenue, sachant qu'elle ne pourrait justifier ce subterfuge sans mettre sa vie en péril. Et durant les affrontements du lendemain, les armées d'Agamemnon et les dieux qui les soutenaient ont tué quantité de Troyens. C'est uniquement grâce au protecteur de la cité, Phoebos Apollon, le dieu à l'arc d'argent, dont les flèches semaient la mort parmi les rangs argiens, que nous n'avons pas été terrassés durant cette sombre période où Hector a refusé de se battre. Quoi qu'il en soit, Oakenberry, Les Argiens menés par Diomède ont réussi à forcer nos défenses en leur point le plus vulnérable, là où pousse le vieux figuier sauvage. Par 3 fois, durant les 10 années qui ont précédé la guerre contre les dieux, les Argiens y avaient donné l'assaut, sans doute avisés de cette faiblesse par un prophète. Mais par 3 fois, Hector, Paris et nos champions les avaient repoussés. Les 2 Ajax, le grand et le petit, les fils d'Atrée et le terrible Diomède avaient tour à tour mené l'offensive. Mais ce jour-là, 4 jours après que je t'eus laissé en pâture au vautour, Diomède est monté à l'assaut du mur près du vieux figuier à la tête de ses guerriers d'Argolide. Alors même que les échelles d'Agamemnon se dressaient contre les remparts ouest et que de gigantesques béliers faisaient trembler les portes scellées, Diomède attaquait notre point faible par surprise. Et lorsque le soleil s'est couché en ce 4e jour, les Argiens étaient dans nos murs. Seul le courage de Déiphobe, le frère d'Hector, le fils de Priam, l'homme que la famille royale m'a choisi comme nouvel époux, seul le courage de Déiphobe a permis de sauver la cité. Percevant l'insidieuse menace alors que d'autres se lamentaient sur les échelles et les béliers d'Agamemnon, il a rassemblé les survivants de son bataillon, ainsi que les hommes d'Hélénos et ceux d'Asios, fils d'Irtac, plus quelques centaines de soldats d'aînés. Et, soutenu par le vétéran d'Astéropée, il a lancé une contre-attaque dans les rues de la ville, faisant de la place du marché une nouvelle ligne de front. Face à l'impressionnant Diomède, Déiphobe s'est battu aussi vaillamment qu'un dieu, plus vaillamment même, car il a esquivé la lance que lui jetait Athénée. Les dieux ce jour-là se battaient avec autant de férocité que les hommes. L'aube venue, les forces argiennes étaient contenues. Il y avait une brèche dans nos murs, là où pousse le vieux figuier. L'ennemi occupait tout un quartier après l'avoir incendié. Les hordes d'Agamemnon butaient sur nos remparts à l'ouest et au nord. Les portes C ne tenaient plus que grâce à leur ferrure. Et c'est alors qu'Hector a annoncé à Priam et aux notables désespérés qu'il allait reprendre le combat.
« Et c'est ce qu'il a fait ?» demanda Hockenberry.
Hélène éclata de rire.
« Comment ? Jamais on n'avait vu plus glorieuse Aristeia, Hockenberry ! Le premier jour de sa colère, Hector, qu'Apollon et Aphrodite protégeaient de la foudre d'Athénée et d'Érée, a affronté Diomède en combat singulier et l'a tué en brochant le fils de Tidée avec sa javeline et faisant fuir ses guerriers d'Argolide. Lorsqu'est venu le soir, la cité était libérée et nos maçons reconstruisaient le mur près du vieux figuier, le rehaussant pour l'amener au niveau des portes C.
« Diomède est mort ?» s'exclama Hockenberry choqué.
Au bout de 10 ans passés à observer le conflit, il en était venu à croire que Diomède était aussi invulnérable qu'Achille ou même un dieu. Dans l'Iliade, sa glorieuse Aristeia occupait la totalité du champ 5 et une bonne partie du champ 6 et ne le cédait en longueur qu'à la fameuse colère d'Achille, à laquelle Homère consacrait les champs 20 à 22. Une colère dont personne ne subirait les effets du fait des tripatouillages d'Hockenberry.
« Diomède est mort ?»
répéta-t-il incrédule.
« Et Ajax aussi ?»
enchaîna Hélène,
car Hector l'a retrouvé le lendemain. Tu te rappelles qu'ils s'étaient déjà affrontés en combat singulier et s'étaient séparés à l'amiable, étant d'une valeur égale. Mais cette fois-ci, Hector a terrassé le fils de Télamon, défonçant à coups d'épée son grand bouclier rectangulaire, le faisant plier sous le choc. Et lorsqu'Ajax le Grand s'est écrié « Pitié, j'implore ta pitié, fils de Priam !» l'impitoyable Hector lui a planté son épée dans le cœur et l'échine, l'envoyant dans l'Hadès avant même que le soleil ne se soit levé d'une main au-dessus de l'horizon. Et les hommes d'Ajax, les célèbres Salaminiens, non contents de pousser des pleurs et des lamentations, ont battu en retraite dans une totale confusion, ralentissant les armées d'Agamemnon et de Ménélas qui déferlaient sur la colline Batiée. Tu sais, cette butte à l'ouest de la cité que les dieux disent être la tombe de l'Amazone Myrine.
Oui, je la connais, dit Hockenberry.
Eh bien, c'est là que les hommes du défunt Ajax ont brisé la belle ordonnance des troupes d'Agamemnon. Ce fut le chaos. Et Hector s'est jeté dans la mêlée, à la tête de ses capitaines troyens et alliés. Déiphobe s'était mis aux ordres de son frère, Acamas et le vieux Pyrrhos conduisaient les traces, Mestlès et le fils d'Antiphe encourageaient leurs Méoniens. Bref, tous les héros troyens encore vivants étaient là, remis de leur récente défaite. Je me tenais sur les remparts tout près d'ici, au Hockenberry. Et 3 heures durant, aucun de nous. Il y avait là les Troyennes, le vieux Priam, impotent mais assis dans son palanquin, les épouses et les filles, les mères, les sœurs, les jeunes fils et les invalides. Aucun de nous n'a vu quoi que ce soit durant ces 3 heures, si épais était le nuage de poussière soulevé par ces milliers de guerriers et ces centaines de chars. Parfois, une volée de flèches tirées par l'un ou l'autre camp occultait le soleil. Mais lorsque la poussière est retombée et que les dieux se sont retirés à Olympos après cette matinée de combat, Ménélas avait rejoint Diomède et Ajax au royaume des ombres et Ménélas est mort. Ton époux est mort.
Encore une fois, le choc était rude. Ces hommes s'étaient battus les uns contre les autres durant 10 ans, puis pendant 10 mois contre les dieux.
C'est ce que je viens de dire, non ?
Répliqua Hélène, irritée par cette interruption.
Ce n'est pas Hector qui l'a tué. Il a été frappé par une flèche tirée par le jeune Palmis, fils du défunt Pandare et petit-fils de Lycaon, armé de l'arc même avec lequel Pandare avait naguère blessé Ménélas à la hanche. Cette fois-ci, cependant, Athénée n'était pas là pour détourner son trait, et celui-ci a crevé l'œil de Ménélas, lui traversant la cervelle et ressortant par son serre-tête de cuir.
Le petit Palmis,
dit Hockenberry, qui avait conscience de répéter cette litanie de noms à la façon d'un demeuré.
Et il n'a pas plus de 12 ans.
Il n'en a même pas 11, dit Hélène avec un sourire. Mais ce garçon sait se servir d'un arc d'homme, celui de son père Pandare, tué par Diomède il y a 1 an. Et sa flèche, en tuant mon époux, a résolu d'un coup toutes nos querelles conjugales. Si cela t'intéresse, je conserve dans ma chambre le casque ensanglanté de Ménélas. Le jeune Palmis a gardé son bouclier.
Mon Dieu ! Diomède, Ajax le Grand et Ménélas oxy en l'espace de 24 heures.
Ah, pas étonnant que vous ayez repoussé les Argiens jusqu'à leur nef.
Et pourtant, ce jour aurait vu le triomphe des Achéens si Zeus n'était pas intervenu.
Zeus ?
Oui, en ce jour qui avait débuté sous les meilleurs auspices, les dieux et les déesses partisans des Argiens ont été si courroucés par la mort de leur champion qu'Érée et Athénée à elles seules ont foudroyé plus d'un millier de nos vaillants Troyens. Poséidon, l'ébranleur du sol, a poussé un hurlement si violent qu'une vingtaine de nos immeubles les plus solides en ont été pulvérisés. Les archers tombaient des remparts comme feuilles en automne. Priam a été jeté à bas de son palanquin. En quelques minutes à peine, la situation était renversée. Hector battait en retraite, sans toutefois rendre les armes, et ses guerriers tombaient de toutes parts. Et il se voyait contraint de porter Déiphobe, blessé à la jambe, et nos forces refluaient jusqu'à la colline Batier, puis de là jusqu'aux portes C. Nous, les femmes qui les guettions sur les remparts, nous sommes descendues les aider à fermer les portes, tant la lutte était acharnée. Plusieurs vingtaines d'Argiens enragés les avaient suivis dans la cité. Et c'est alors que Poséidon a ébranlé le sol une nouvelle fois, jetant tous les hommes à terre. Alors même qu'Athénée et Apollon se neutralisaient mutuellement, zébrant les cieux de leur foudre et du sillage de leurs chars, et Kéré jetait sur nos murs des éclairs d'énergie pure. Et Zeus est apparu à l'Orient, plus gigantesque, plus impressionnant qu'on ne l'avait jamais vu de mémoire de mortel.
Plus impressionnant que le jour où il s'est manifesté sous la forme d'un visage dans les volutes d'un champignon atomique ? Demanda Hockenberry.
Hélène s'esclaffa.
Beaucoup plus impressionnant, mon Hockenberry. Le Zeus que nous découvrions était un colosse, dont les jambes étaient plus hautes que le sommet enneigé du mont Ida, dont le torse puissant flottait au-dessus des nuages, dont le front ombrageux était quasiment invisible à nos yeux, culminant à une altitude encore plus élevée que celle des nuages d'été annonciateurs de tempêtes.
Waouh !
Fit Hockenberry, qui avait peine à imaginer la scène. Il s'était un jour frotté à Zeus. Enfin, disons qu'il s'était fait passer un savon et qu'un séisme des plus opportuns lui avait permis de se défiler, glissant entre les jambes du seigneur de tous les dieux pour récupérer son médaillon têtu et s'éclipsant à temps pour assister au début de la guerre contre les dieux. Même à 5 mètres sous la toise, le père des dieux était déjà assez impressionnant. Difficile de l'imaginer haut de 15 kilomètres.
Continue, je t'en prie.
Lorsqu'est apparu ce gigantesque Zeus, les deux armées se sont figées sur place ainsi que des statues. L'épée ou la lance brandie, le bouclier levé, même les chars divins s'étaient immobilisés dans les cieux. Athénée et Phoebos Apollon partageant le sort des mortels. Et Zeus a déclaré d'une voix tonitruante. Je ne saurais l'imiter, Hockenberry, car elle était pareille à un coup de tonnerre, à un tremblement de terre, à l'éruption d'un volcan. Il a déclaré « Incontrôlable, Érée, une nouvelle fois je subis ta traîtrise. Je serai toujours plongé dans le sommeil sans l'intervention de ton fils estropié, secondé d'un mortel. Comment oses-tu me trahir avec des baisers, m'aveugler de ta séduction, pour être libre enfin de céder à tes caprices, de détruire Troie en violation des ordres de ton seigneur et maître ?»
Ton fils estropié, secondé d'un mortel,
répéta Hockenberry. Le fils estropié ne pouvait être qu'Héphaïstos, le dieu du feu.
Mais qui était le mortel ?
c'est ce qui l'a beuglé,
dit Hélène en se frictionnant la gorge, comme s'il lui était douloureux d'imiter le grondement sismique du Père des Dieux. Et ensuite?
Ensuite, avant qu'Héré ait pu dire quoi que ce soit pour sa défense, avant que l'un ou l'autre des dieux ait pu faire un geste, Zeus, seigneur des nuées noires, l'a frappée de sa foudre. Elle a dû mourir sur le coup, si immortels l'ayons-nous cru.
Les dieux ont la sale manie de ressusciter, marmonna Oakenberry.
Il repensait aux gigantesques cuves de soins remplies d'asticots bleus sur lesquels veillait cet insecte géant qu'on appelait le guérisseur.
Oui, nous le savons tous,
répliqua Hélène d'une voix dédaigneuse.
Notre Hector n'a-t-il pas tué Arès une demi-douzaine de fois au cours des 8 derniers mois, pour l'affronter de nouveau quelques jours plus tard? Mais ce n'est pas la même chose, Oakenberry.
Que veux-tu dire?
La foudre de Zeus a désintégré Héré. Des morceaux de son char sont retombés à des lieux à la ronde. On a retrouvé des gouttes d'or fondues sur tous les toits d'Ilium, ainsi que des lambeaux de chair qui ont chu comme blé en javel de la plage au palais de Paris. Des bribes de tissu calciné que nul n'osait toucher et qui ont cramé et fumé pendant des jours.
Tout Jésus, souffla Oakenberry.
Puis le puissant Zeus a frappé Poséidon, ouvrant un gouffre béant sous le dieu de la mer en fuite et l'y faisant sombrer. Les échos de ses hurlements ont retenti pendant des heures, jusqu'à faire éclater en sanglots les Argiens comme les Troyens.
Zeus a-t-il dit quelque chose en ouvrant cet abîme?
Oui. Il s'est écrié « Je suis Zeus, le meneur de tempêtes, le fils de Cronos, le père des hommes et des dieux, et j'étais le maître de l'espace probabiliste bien avant que vous n'ayez renoncé à vos misérables enveloppes post-humaines. J'étais le maître et le gardien de Cétébos bien avant que vous n'osiez rêver d'immortalité. Toi, Poséidon, ébranleur du sol et traître sans pareil, je sais que tu as conspiré avec ma reine aux yeux de vache afin de me renverser. Je te bannis dans le Tartare, le royaume au-dessous de l'Hadès. Je te précipite dans l'abysse sous la terre et la mer, où Cronos et Japet se tordent sur leur lit de douleur, où nul rayon de soleil ne vient leur réchauffer le cœur, tout au fond du Tartare, ceint de toutes parts par l'abysse du trou noir. »
Oakenberry patienta pendant qu'Hélène s'éclaircissait la gorge.
« Aurais-tu un peu d'eau, Oakenberry ?»
Il lui tendit l'outre qu'il avait remplie à la fontaine de la place et attendit qu'elle se soit désaltérée.
Telles sont les paroles qu'a prononcées Zeus lorsqu'il a ouvert un gouffre dans le sol pour précipiter Poséidon dans le Tartare. Les soldats qui se trouvaient sur les remparts et qui ont vu l'abîme sont restés incapables de parler pendant plusieurs jours. Ils ne pouvaient que hurler ou chuchoter.
Oakenberry attendit la suite.
Et puis le Père des Dieux a ordonné à ceux-ci de regagner Olympos pour y recevoir leur châtiment. Tu me pardonneras, j'espère, si je renonce à imiter sa voix tonitruante. Et l'instant d'après, les chars volants avaient disparu, et avec eux le dieu à l'arc d'argent, Athénée, Hadès aux yeux rouges, cette salope d'Aphrodite, Arès le sanguinaire. Bref, tout notre panthéon avait disparu, telle une bande de garnements regagnant leur foyer pour y recevoir une bonne fessée.
Et Zeus a-t-il disparu lui aussi, sans qui Oakenberry?
Oh non! Le fils de Cronos avait à peine commencé à s'amuser. Enjambant Ilium, sa masse colossale a franchi en quelques pas les stades la séparant du rivage, pareil à Astyanax dans sa sablière, courant vers ses jouets. Ce jour-là, des centaines de Troyens et d'Argiens ont péri sous ses sandales, Oakenberry. Et une fois arrivé dans le camp d'Agamemnon, il a incendié d'un geste de la main les centaines de nefs noires échouées sur le sable. Quant au navire argien qui mouillait au large, et au navire en provenance de Lemnos, porteur de cadeaux pour les Atrides offerts par Eunos, le fils de Jason, Zeus a serré son poing de feu, et une énorme vague les a balayés les uns comme les autres, les fracassant sur la grève. Encore une fois, on aurait dit des jouets, tels les bateaux en bois du petit Astyanax, que celui-ci jette par terre quand il se fâche.
« Grand Dieu !» souffla Oakenberry.
« Oui, c'est cela !»
rétorqua Hélène.
Puis Zeus a disparu dans un coup de tonnerre plus bruyant, plus violent encore que sa voix assourdissante, et le vent a comblé l'espace qu'il venait d'évacuer, déchiquetant les tentes achéennes et les projetant à des milliers de pieds d'altitude, arrachant les étalons troyens à leurs écuries pour les faire voler au-dessus de nos murailles.
Oakenberry se tourna vers l'ouest, où les armées de Troie encerclaient les maigres forces argiennes.
C'était il y a moins de 2 semaines. Les dieux sont-ils revenus depuis lors? Zeus ou un autre?
Non, Oakenberry. Nous n'avons plus vu d'immortels depuis ce jour.
Mais ça fait presque 2 semaines. Pourquoi Hector a-t-il mis autant de temps à coincer les Argiens? Privé de Diomède, d'Ajax le Grand et de Ménélas, il devait être sacrément démoralisé.
En effet,
acquiesça Hélène.
Mais les deux camps étaient sous le choc. Nombre d'entre nous sont restés plusieurs jours frappés de surdité. Et comme je te l'ai dit, les Troyens en poste sur les remparts et les Argiens trop proches du gouffre ont été réduits à l'état de débiles pendant une bonne semaine. Une trêve tacite a été instaurée. Nous avons rassemblé nos morts. Rappelle-toi, nous avions souffert de terribles pertes lors de l'offensive d'Agamemnon. Et pendant une semaine ou presque, quantité de bûchers funéraires ont brûlé, que ce soit ici ou le long du rivage, où se dressaient encore les campements des Achéens terrifiés. Puis, du jour où Agamemnon a envoyé des hommes couper des arbres dans les forêts au pied du mont Ida, dans le but de construire de nouvelles nefs, bien entendu, Hector a lancé son offensive. La lutte s'est révélée aussi longue que pénible. Acculés à la mer, privés de leurs nefs, les Argiens se battent comme des rats pris au piège. Mais ce matin, vois-tu, leurs quelques milliers de guerriers se retrouvent encerclés et Hector se prépare à donner l'ultime assaut. Aujourd'hui s'achève la guerre de Troie et Ilium est toujours debout. Hector est le plus grand d'entre tous les héros. Et Hélène est enfin libre.
Suivi un moment de silence, durant lequel l'homme et la femme, chacun assis sur son moellon, tournèrent leurs regards vers l'ouest où le soleil faisait luire les armes et les armures et d'où montait le son des trompes.
« Que vas-tu faire de moi, Oakenberry ?»
demanda finalement Hélène. L'intéressé sursauta, contempla le poignard dans sa main et le passa à sa ceinture. « Tu peux t'en aller, » dit-il. Hélène le fixa des yeux mais ne bougea point.
« Va-t'en !»
cria Oakenberry. Elle partit sans se presser. Le murmure de ses sandales résonna dans l'escalier, comme il l'avait fait 17 jours auparavant, lorsqu'elle s'était éclipsée après avoir tenté de le tuer.
« Et moi, où je vais ?»
En bon scoliaste qu'il était dans cette seconde existence, il avait envie de rédiger un rapport sur ses variantes de l'Iliade pour le transmettre aux dieux par l'intermédiaire de la muse. Cette idée le fit sourire. Combien de dieux trouvait-on encore dans cet univers où l'Olympus Mons Martien était devenu Olympos ? Quelle avait été l'étendue de la colère de Zeus ? S'était-il livré à un divin génocide ? Sans doute ne le saurait-il jamais. Il n'avait pas assez de courage pour se téléporter à Olympos. Oakenberry toucha le médaillon têtu sous sa tunique. Retour au spationnef. Il voulait voir la Terre, sa Terre, même si 4000 ans avaient passé depuis son époque. Et il voulait être auprès d'Odysseus et des Moravecs quand il la verrait. Plus aucune obligation ne le retenait dans l'univers d'Ilium. Il sortit le médaillon têtu et en caressa les dorures. Il n'allait pas retourner à bord de la reine Mab. Pas tout de suite. Peut-être avait-il cessé d'être un scoliaste. Les dieux l'avaient abandonné tout aussi sûrement qu'ils les avaient trahis. Mais il était resté un lettré. Toutes ces années passées à enseigner l'Iliade, toutes ces salles de classe poussiéreuses, tous ces jeunes visages d'étudiants, pâles, boutonneux, sains, bronzés, enthousiastes, indifférents, inspirés, abétis, lui revinrent en mémoire, comblant les vides dans ses souvenirs. Comment aurait-il pu renoncer à assister au dernier acte de cette nouvelle et absurde version ? Le professeur Thomas Oakenberry, PhD, manipula son médaillon et se técut au centre du campement achéen assiégé et condamné.